Matrioshka.
On va aborder la question de la valeur de l'imaginaire. Comment, outre la question du travail, si on va au-delà de la question du travail, comment l'imaginaire a sa valeur et comment elle peut nous permettre d'aller ailleurs, de penser autrement, de développer d'autres modèles. Et pour en parler, eh bien, j'appelle tout de suite Étienne Klein ainsi que Malek Boukherchi à venir nous rejoindre. Si vous voulez, on vous libère. Camille, vous êtes bienvenue. Merci. Ou alors vous pouvez y aller. Merci infiniment à vous. On peut la féliciter et l'applaudir. Merci. Merci beaucoup, Camille. 19 ans, Étienne Klein. Bienvenue. Bonjour, Étienne. Ça va ? Daniel Kaplan, Fabrice Bonifé, vous connaissez-vous ? Malek Boukherchi est-il là ? Il est. Il arrive. Merveilleux. Il fera son entrée aussi. Vous allez bien, Étienne Klein ? Votre micro ne fonctionne pas encore.
Oui, ça va. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, ça va bien. Merci.
Merci de nous rejoindre pour continuer à échanger ensemble sur ce festival Génération Matrioshka qui a pour enjeu de réfléchir au devenir de nos générations futures au travers de différents dialogues qu'on a eu d'étudiants. Alors, il devait y avoir une jeune femme qui arrivait, Malek Boukherchi. Bonjour et bienvenue à vous. Merci de nous rejoindre. Alors, je dis un petit peu qui vous êtes pour ceux qui ne vous connaissent pas. Étienne Klein, vous êtes directeur de recherche au CEA, philosophe des sciences. Vous écrivez, vous pensez l'histoire et la science. Malek Boukherchi, vous êtes anthropologue, ultra-marathonien de l'extrême et vous êtes aussi conteur. Alors, on parle ensemble maintenant pour cette dernière table partagée sur qu'est-ce qui va compter demain pour les générations futures dans ce festival Génération Matrioshka. Qu'est-ce qui va compter demain ? On identifie différentes valeurs et là, on est sur un temps de réflexion sur la valeur de l'imaginaire. Alors, Daniel Kaplan a commencé à nous poser, à introduire le sujet de la valeur de l'imaginaire, comment on décloisonne nos pensées, on se déplafonne d'une certaine façon au travers du sujet du travail. Mais si on continue un petit peu plus loin pour arriver à épouser notre avenir, à répondre aux enjeux et aux inquiétudes qui se posent aux jeunes générations, comme on l'entendait là, Camille Dumont, de Youth for Climate ou d'autres, Flora Gebali il y a un instant, et puis on a entendu aussi hier d'autres jeunes gens qui nous expliquent ce qui les motive, ce qui fait qu'ils s'engagent, ce qui fait qu'ils ont peur de leur devenir. Eh bien nous, la question maintenant, c'est comment on peut nous aider à penser autrement. Et alors, c'était intéressant que vous nous rejoigniez, Étienne Klein, pour parler de ça, parce que, on l'a évoqué tout à l'heure, on parle en gros... même si Daniel Kaplan a nuancé le propos, mais de deux modèles de société demain, un qui serait en caricature totalement sobre et puis décroissant, voilà, je reprends les mots même s'ils ont été remis en question à chaque fois, et puis un autre plus pro-technologique d'une certaine façon, où grâce à la science, grâce au progrès, on pourrait penser les choses autrement. Qu'est-ce que vous pensez, vous ? Aujourd'hui, les jeunes générations se méfient du progrès. Est-ce que vous avez une lecture par rapport à ça ? Bienvenue,
merci pour cette question.
Écoutez-moi, c'est une question introductive. Hein.
D'abord, je ne veux pas faire de prospective parce que je fais partie d'une génération qui a été anesthésiée par la chute du mur de Berlin. Et l'invasion de l'Ukraine le 24 février m'a complètement sidéré. J'y ai même pas cru au départ. Ça veut dire qu'on a vécu dans l'illusion que la guerre, en tout cas en Europe, qu'on avait trouvé des parades contre ce type de guerre, contre le cynisme politique, contre la violence brute. Et on a bien dû voir que la parenthèse pacifique qu'on a connue était en fait une simple parenthèse. Et je pense qu'il y a des leçons à en tirer. Maintenant, pour répondre à votre question de façon plus précise, je ne crois pas que les jeunes générations croient moins ou... différemment des générations plus âgées. Quand vous dites qu'elles ne croient pas au progrès, en fait, le mot progrès, il a disparu des discours publics. Quand on regarde avec des logiciels l'occurrence des mots dans les discours publics, on voit que le mot progrès, qui a été un mot structurant de la modernité pendant 3 siècles, qui a même porté une majuscule pendant très longtemps, en fait, a commencé à décliner à la fin des années 1980. Il a été progressivement remplacé par un mot différent dont on pourrait penser qu'il est le synonyme, qui est le mot innovation. Et aujourd'hui, c'est le mot innovation qui l'emporte. Or, notre discours sur l'innovation, c'est un discours qui s'appuie en fait sur l'idée que le temps qui passe dégrade la situation et que l'innovation est ce qu'il faut faire pour empêcher que les choses se dégradent trop. Alors que l'idée de progrès s'appuyait sur un temps qui passe qui est complice de notre liberté, de notre volonté. Donc un temps qui passe qui serait constructeur. Et donc l'innovation est un mot qui, dans sa rhétorique, ne rend pas justice à l'idée de progrès. Et on comprend facilement pourquoi. Pourquoi on a abandonné le mot progrès ? C'est parce que croire au progrès, c'est finalement faire l'effort intellectuel, un effort d'imagination, de penser le futur, donc à l'avance, d'une façon qui est crédible et attractive. Crédible parce que ce n'est pas l'utopie. Il faut savoir tracer un chemin entre le présent où nous sommes et ce futur qu'on désire. Et il faut que ce soit attractif parce que le progrès n'étant pas automatique, il faut travailler à le faire advenir. Il faut même se sacrifier pour lui, disait Kant. Et aujourd'hui, quand un scientifique parle du futur, je ne parle pas des scientifiques qui parlent des trous noirs, du boson de Higgs, du
Big
Bang.
Vous ne parlez pas de vous, vous voulez dire.
Qui continuent à nous faire rêver. Je parle des scientifiques qui parlent du climat, de la biodiversité, de la pollution, etc. Quand ils parlent du futur, ce qu'ils disent est crédible, mais pas du tout attractif. Et du coup, l'idée même de progrès est prise en porte-à-faux et on a du mal à l'inscrire. Donc moi, j'ai beaucoup d'étudiants qui sont pris par ce qu'on appelle l'éco-anxiété, ils sont angoissés. Qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Je pense qu'il faut essayer non pas de faire des prédictions, parce qu'elles seront certainement démenties, mais leur donner une perspective, comme celle qu'on avait quand on était jeune dans ma génération. On nous parlait de l'an 2000 tous les jours. On nous expliquait comment on allait voyager, travailler, se nourrir, se distraire. Et ça donnait un sens, en tout cas, ça proposait une sorte d'horizon projectif.
Oui, mais cette idée de perspective dans le temps aujourd'hui,
oui, c'est difficile.
Est comptée. On l'entendait tout à l'heure avec Camille qui nous expliquait, lorsque Jean-Claude Trichet lui parlait, oui, mais d'ici dans 100 ans, elle disait, oui, non, mais c'est dans 10 ans. Et puis Fabrice Bonisset disait, oui, mais enfin, c'est dans 6 ans. Donc en réalité, cette notion du temps, même si vous avez beaucoup travaillé sur le temps et on ne sait pas vraiment s'il existe, mais il n'empêche qu'il y a quand même des perspectives qui sont difficiles à poser.
Non, mais justement, comme le titre de la session, si j'ai bien compris, c'est comment construire une autre histoire.
Absolument.
Une autre histoire par rapport à quoi ? Moi, je pense que la priorité, c'est de comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui se construit ? Qu'est-ce qui se détruit ? Et quels sont nos leviers d'action ? Donc, avant d'inventer une autre histoire, je pense que la priorité, c'est de comprendre bien ce qui se passe. Ensuite, de tenir compte de ce que nous voulons, en tenant compte de ce que nous savons. Et c'est ça qui, à mon avis, permet de tracer une ligne, non pas à très long terme, parce qu'il y a trop d'aléas qui vont survenir. Et en plus, on a compris une chose, qui est que beaucoup de choses qui vont se passer vont dépendre de ce que nous allons faire. Et comme nous ne savons pas prédire ce que nous allons faire, nous ne pouvons pas dire ce qui va se passer.
On peut essayer d'avancer pour faire quelque chose déjà.
Oui, mais vous regardez, il y a 3 mois, on était dans justement une sorte de planification des mesures qu'il faudrait prendre pour régler ou s'adapter, disons, à la crise climatique. Et là, tout d'un coup, vous avez une guerre qui fait que ces priorités-là semblent mises au second rang. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit que j'avais eu un gros choc. C'est comme si toutes nos capacités d'adaptation, nos réflexions étaient mises de côté pour faire face à une urgence que personne n'avait vraiment vu venir.
Malek Boukherchi, je rebondis sur ce que dit là Étienne Klein, sur cette façon de pouvoir écrire une autre histoire. Ce qu'il dit, c'est que en réalité, le problème, c'est l'inattendu. Et est-ce que vous, qui êtes donc ultra-marathonien de l'extrême, qui avait pour coutume, comme moi je sors de chez moi pour aller boire un café, vous allez courir 150 km dans le désert et puis vous allez dans le Grand Nord affronter les éléments et vous mettre en péril d'une certaine façon, ou en tous les cas essayer de dépasser certaines conditions qui a priori paraîtraient communes. Est-ce que le fait d'accepter de ne pas savoir ce qui va nous arriver quand on est un aventurier est quelque chose qui peut nous aider à reprogrammer nos modèles aujourd'hui dans l'acceptation, comme si on était, alors par rapport à tout ce qui a pu être dit de si inquiétant. Le terme peut paraître maladroit, mais comme si c'était d'une certaine... On était, par exemple, des aventuriers du quotidien.
Eh bien, là-dessus, Sandra, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'on peut considérer tout à chacun ici dans la salle, vous êtes tous et toutes des ultra-marathoniens d'extrême, sans le savoir. Alors, peut-être pas sur le plan de la pratique corporelle, mais sur le plan d'attitude, de l'état d'esprit à avoir pour pouvoir faire face à un monde qui bouge, un monde en renaissance, un monde en transformation, un monde en résurgence, un monde qui est constamment en épiphanie de mouvement. Et quand on pratique l'ultra-marathon, alors pour faire bref, c'est... On est 700 dans le monde à pratiquer l'ultra-marathon des extrêmes. On est capable de faire des chevauchées fantastiques de 400 km jusqu'à 2000 km aujourd'hui dans les déserts. Et pourquoi on est peu nombreux? Parce qu'on fonctionne à la boussole. Autrement dit, on est dans une aventure lacunaire. Lacunaire pour dire on est totalement déconnecté du réel. Quand je pars, ma famille, mes proches, mes amis ne savent pas où je suis. Et quand je pars, je suis dépendant de ma carte, la carte du désert. Alors vous allez dire, une carte du désert, il y a quoi? C'est tout jaune. Mais il y a les pluies. Parce qu'il y a toujours de l'eau dans les déserts. Et notre enjeu, c'est tous les 150 km de récupérer l'eau. Et après, on peut continuer à avancer. Et donc, ce qui est intéressant dans l'ultra, on est dans une éloge dite des trois I. En anthropologie sociale, on parle des trois I, que le monde est riche d'improbabilité, d'imprévisibilité et d'incertitude généralisée. L'humanité s'est construite sur l'incertitude. Tout est incertain tout le temps. Les gens cherchent de la certitude. Ce n'est pas de la certitude qu'il faut chercher. Il s'agit d'accueillir l'incertain. Et lorsqu'on est dans cet état d'esprit, cette capacité à accueillir l'incertain, alors on va développer cette qualité remarquable que nous, on développe modestement. Moi, je parle d'adaptance. Cette capacité à s'adapter parce que ça fait sens. Parce que dans les déserts, notre destinée de vie se joue sur un geste, une intuition lucide, une décision agile qui suscite le tressaillement du destin. Notre vie peut basculer à tout moment. Alors il s'agit d'être là, de tenir et de se tenir. Et vous aussi, on attend de nous tous de tenir et de se tenir face à l'incertain d'accueillir. Et je vais vous donner juste un exemple d'incertitude généralisée. Parce que je pense que lorsqu'on accueille l'incertain, on est capable de faire sien les propos d'un Alain, ce grand philosophe, lorsqu'il disait que le secret de l'action, c'est malgré tout d'y aller. On y va, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Par exemple, dans la vie de tous les jours, l'incertitude la plus globale, c'est dormir, la dormition, comme on dit chez nous, bien dormir. Beaucoup de gens dorment mal. Et beaucoup de gens, quand ils se lèvent le matin, ils ont beau dormir 7 heures, 8 heures, ce sont des naufragés du matin. Ils sont crevés. Et quand vous êtes crevés, comment vous faites pour faire face aux défis de la journée? Parce qu'on est d'abord dans un corps incarné. Il faut que le corps soit solide pour pouvoir faire face aux défis de la journée. Alors la dormition, dormir, c'est la plus grande des incertitudes. C'est la plus belle des aventures. Parce que si, la veille, chaque soir avant de vous endormir, vous vous dites « Putain, demain matin, est-ce que je vais me réveiller ?» Vous ne savez pas si vous allez vous réveiller le lendemain matin. C'est pas vous qui décidez que vous vous réveillez. C'est le corps, à un moment donné, qui, de manière organique, magique, féerique, fait que on se lève. Or, à un moment donné, la nuit, vers 2h, 3h du matin, ça dépend des cycles, vous ne savez même pas où vous êtes, sur le plan du corps, sur le plan de l'esprit. Peut-être la nuit, il y a la troupe serrée des étoiles et la cohorte des anges musiciens qui viennent vous visiter. Vous n'en savez rien. Et le lendemain, on se réveille. C'est magique. Mais si la veille, vous vous dites, c'est trop dangereux de dormir, c'est incertain, c'est compliqué, j'y vais pas, eh ben on arrête. Or, vous y allez tout le temps. L'incertitude, elle est présente dans des petites choses du quotidien. On pourrait démultiplier. Le couple. Lisez les sociologues de la famille, on arrête. Tous les 5 ans, 7 ans, ça casse apparemment dans les sociétés modernes. Et malgré tout, vous voulez trouver votre âme sœur ou la sœur d'âme et on y va. Alors maintenant, on est rentré dans une logique de polygame lent successif. Parce qu'aujourd'hui, on est des polygames lents en Occident. Tous les 4 ans, vous changez de partenaire. C'est de la polygamie. Mais en chronologique, c'est pas en même temps. Si on veut faire des allusions politiques, c'est après. Mais le couple, c'est une incertitude également généralisée. On pourrait démultiplier la plus belle des incertitudes. Dans la salle, est-ce que j'ai des pères et des mères? Levez la main. Ce n'est pas la plus grande incertitude des enfants. Et donc Étienne, quand il évoque, effectivement, il enseigne devant des étudiants qui sont bien sûr notre jeunesse, notre espérance, notre envie, hein, cette capacité à se projeter. Mais l'enfant, pour le père et pour une mère, ce n'est pas sa plus grande incertitude. Si vous aimez vos enfants, qu'ils aient 5 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, vous ferez tout pour être à leur côté. Et vous ne savez pas comment ils vont évoluer. Voilà la plus grande incertitude. Après, les événements géopolitiques, c'est encore autre chose. Je ne suis pas géopoliticien, mais je pense que sur le plan du quotidien, il y a cette attitude, cette capacité à faire face, à tenir, à se tenir. Et c'est un état d'esprit. Et lorsqu'on a un état d'esprit extrêmement combatif, joyeux, un optimisme lucide, pas béat, un optimisme lucide, ce qui m'anime, c'est le discernement, la clairvoyance, la claire vision, cette capacité à distinguer le bien du mal, le vrai du faux, l'absolu du contingent, l'essentiel de l'accessoire. Je crois que ça manque de discernement dans nos sociétés modernes. Je sais que j'ai écouté à un moment donné une interview d'Étienne Klein qui parlait de nuance. J'aime beaucoup ce mot-là. Et je crois qu'avec de la nuance, du discernement, eh ben on est capable tout simplement d'être là et peut-être d'avoir en tête ce que nous, les ultra-marathoniens, on a en garde. Et on garde toujours en mémoire, on a un adage qui dit « C'est trois balises qui exhortent notre chemin. Au début, n'aie crainte. Au milieu, tiens bon. Et à la fin, continue d'avancer.
» Malek, c'était juste une question et derrière, c'est un cadeau. Merci, Malek. On entend bien donc la posture d'une certaine façon qu'on pourrait adopter. Vous venez d'écrire, Étienne Klein, un livre « 33 idées de génie qui ont bousculé la physique ». Et par rapport à ça, ce qui nous intéresse ici, sur la façon d'écrire une histoire aussi différente, c'est comment, finalement, l'idée de génie, elle arrive. Parce que parfois, on se dit on aurait bien besoin d'une idée de génie quand on voit le travail que fait Daniel Kaplan avec ses groupes de travail, que ce soit sur le travail justement, mais sur différents sujets, pour essayer d'aller explorer d'autres imaginaires ailleurs, d'autres narratives, d'autres narrations. On se dit, mais finalement, il y a un travail énorme, et là, on a un problème encore plus énorme. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir juste l'idée de génie qui tombe comme ça? Alors, comment ça marche, l'idée de génie, Étienne Klein?
Bon, c'est quand même difficile de parler après Malek.
C'est aussi, pour ça que j'ai pris un peu de temps.
C'est aussi difficile de courir après lui. Je l'ai vu à Chamonix. Bon, il parle de l'optimisme. Moi, je me souviens de la définition de l'optimisme que donnait Jean d'Ormesson. Il disait, un optimiste, c'est un gars qui fait ses mots croisés avec un stylo bille.
Et alors,
on pourrait la compléter en disant, un pessimiste, c'est quelqu'un qui ne fait pas de mots croisés parce qu'il a peur d'échouer. Et quelqu'un comme Malek, c'est quelqu'un qui dit, bon, on y va, mais on y va avec un crayon noir et une gomme. C'est ça? J'ai résumé? Bon, alors, en effet, avec un ancien étudiant qui s'appelle Gauthier de Pombourg, on a sélectionné 33 textes écrits par des physiciens ou des physiciennes entre Galilée et le début du XXIe siècle. C'est des textes qu'on a commentés qui contiennent une idée géniale, c'est-à-dire une idée qui a coupé l'histoire en deux. Il y a un avant et un après, parce que cette idée, qui est parfois émise de façon embryonnaire, a changé la donne et a ensuite engendré des évolutions, voire des révolutions dans l'histoire de la physique. Alors, être génial, c'est pas avoir une propriété qui s'appelle le génie. C'est-à-dire tous ces gens qui ont eu des idées géniales ne sont pas forcément géniaux en tout. Moi, ce que j'appelle le génie, c'est la rencontre historique entre une intelligence particulière et un type de problème qui se pose à une époque. Ce qui veut dire qu'un type qui a été génial en 1905, je pense à Einstein, s'il était là aujourd'hui, n'aurait peut-être pas d'idée géniale parce que le contexte n'aurait pas été celui qui convenait le mieux aux percées que son intelligence particulière lui permettait de faire.
Donc le contexte compte.
Donc moi, je suis pas sûr qu'on manque d'idées géniales. En physique, en tout cas, il y a beaucoup d'idées géniales. La question est de savoir lesquelles sont justes. Or, les idées qu'on a vont au-delà des capacités que nous avons de les tester expérimentalement. Et donc, on est plutôt dans une situation où il y a énormément d'idées, mais il n'y a pas trop de moyens expérimentaux de les sélectionner et de voir lesquelles correspondent à des idées que la nature aurait eues également, si j'ose dire.
Pourquoi? Je ne comprends pas.
Parce qu'en fait, on a des idées sur ce qui s'est passé avant le mur de Planck. On a des idées sur ce qui se passe à trop haute énergie, grâce à des théories qui sont à l'ébauche. Mais on n'a pas les moyens de réaliser des collisions de particules avec des énergies aussi élevées. Donc on n'a pas de résultats expérimentaux qui permettraient de vérifier si ce que permettent de prédire ces idées est effectivement réalisé dans la nature. Donc on est plutôt en train de faire des conjectures sans pouvoir vérifier qu'elles correspondent à des théories expérimentalement vérifiables.
Daniel Kaplan, par rapport à ce qu'explique là Étienne Klein, ça vous fait réagir?
Alors, je voulais d'abord réagir peut-être à votre question. en tout cas...
Le côté de la baguette magique, tout ça.
La baguette magique, l'idée. Oui. Alors, pas sur la question scientifique ou sur laquelle je ne m'avancerai pas, mais où on sent bien que...
Sur l'idée d'avoir...
Il y a cette tentation qui est... Bon, c'est quand même difficile... On sent bien qu'il va falloir changer, on ne sait pas trop comment. Ce serait bien si on pouvait consommer l'idée, là, elle arrive, hop, on n'a plus qu'à faire.
Puis on n'en parle plus.
On n'en parle plus, c'est bon. Et ça, c'est sûr que cette ressource, vous l'aurez pas. Alors, j'étais très intéressé, évidemment, par ce que disait Malek. Mais en particulier, vous parliez des 3 I, que je connaissais théoriquement, mais dans le monde de la prospective... qui n'est pas le monde de la prévision, attention. Hein.
Si vous voulez faire le distinguo, peut-être, pour la salle, qu'on comprenne très simplement.
En gros, qu'est-ce que c'est que le futur ? C'est un endroit imaginaire. Le futur, ça n'existe pas. Hein. Le futur, c'est un endroit imaginaire dans lequel on se rend pour essayer d'en ramener des ressources grâce à un travail d'imagination pour aujourd'hui, pour faire des choses d'aujourd'hui. Tout prospectiviste qui se respecte va commencer par vous dire une chose, la prospective n'est pas de la prévision. En France, en tout cas, il va faire attention à ça. La prospective, c'est un voyage de préférence collectif dans cet endroit imaginaire pour notamment se poser des questions du possible, du souhaitable, des alternatives, pour débattre sur ces questions-là, donc débattre de perspectives et en ramener un certain nombre de ressources pour le présent. Qui ne nécessite pas forcément qu'on soit tombé d'accord, d'ailleurs, sur ce futur-là. Qui nécessite qu'on soit tombé d'accord sur le fait que c'était un endroit où on pouvait coexister, y compris avec nos différences. Ce qui est quand même un point important. Et moi, j'insiste vraiment beaucoup sur cette idée que ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est pas de l'idée géniale, c'est pas du récit qui va nous emmener. C'est de la capacité à faire, à les uns, les unes, les autres, à recommencer à nous projeter. Et à aller dans ces endroits imaginaires, de préférence à s'y retrouver à beaucoup, à s'engueuler dedans. Mais s'engueuler sur le futur, comme on sait que c'est imaginaire, comme on sait que personne n'a raison, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus pacifique que s'engueuler sur le passé, voyez-le aujourd'hui. Hein ? Et c'est même plus facile et plus positif que s'engueuler sur le présent. Quand on anime des groupes, nous, on a appris une chose, c'est qu'il ne fallait pas chercher à les faire tomber d'accord sur le présent. À nouveau, je suis pas dans le champ scientifique hein, ici. Je suis dans le champ de la description de la situation d'une société, de la situation d'une entreprise, de la situation d'un collectif. On peut jamais être d'accord sur le présent, mais on peut être d'accord pour ne pas être d'accord sur le futur et y passer un excellent moment à partir duquel on va trouver des ressources pour l'action.
Mais Daniel
si déjà
Kaplan,
chacun on s'engage sur l'action grâce à ça, on peut faire. Alors oui, je termine sur un petit. Le parallèle que j'avais commencé à faire avec les 3 I.
Oui.
En prospective, il y a un groupe qui s'appelle l'Institut des temps post-normaux, qui fait l'hypothèse que l'idée d'une normalité, c'est-à-dire un temps, il y a des crises, mais un jour ou l'autre, on va revenir à un temps normal, que c'est fini. Et ils ont 4 C, j'ai oublié le quatrième, mais qui sont assez proches. C'est chaos, complexité, contradiction. Ils disent, et puis le quatrième C, inventez votre C à vous. Ce sont les caractéristiques de la période d'aujourd'hui qu'il faut prendre en compte. J'ai retrouvé quelque chose d'assez proche.
Alors justement, ça me fait rebondir sur l'idée de se projeter. On a bien entendu au travers du témoignage tout à l'heure de la jeune femme de Youth for Climate, la façon dont elle décrivait le devenir était dans cette impossibilité totale d'arriver à se projeter. Et c'est peut-être ça qui caractérise aussi la génération aujourd'hui, c'est-à-dire cette incapacité d'accepter de recréer des imaginaires en ayant l'impression que c'est pas réaliste.
C'est du déni, c'est le mot
qu'elle a employé.
Elle imagine un mouvement. Au quotidien, elle imagine un mouvement, elle imagine des formes d'action. Elle fait ces formes d'action. J'ai entendu d'autres intervenants de Youth for Climate raconter comment elles y pensaient, comment elles réfléchissaient, comment elles analysaient le type d'action de désobéissance civile, c'est-à-dire des actions sur lesquelles, de temps en temps, elles prennent des risques judiciaires. Et c'est extraordinairement intéressant. Et il y a un travail de projection de ce type-là. Comment je vais faire bouger ma société, les esprits, le monde politique, etc. Déjà, c'est pas mal. Et donc, déjà, c'est pas quelqu'un qui se projette pas. C'est quelqu'un qui ne se projette pas sur un récit général du futur, oui, mais c'est quelqu'un qui se projette dans l'action, quand même. Donc, faisons attention quand même à cette idée-là. Ce qu'elle n'accepte pas, c'est qu'on lui dise « Non, mais en fait, tu vois, ça va arriver, on va trouver un progrès technique, on va stocker le carbone et puis ça va bien se passer, on ne va rien avoir à changer. » Elle ne l'accepte pas et je pense qu'elle a profondément raison de ne pas l'accepter. Ensuite, elle a, comme nous tous et toutes, cette difficulté qui est « Oui, mais alors à quoi ça ressemblerait cette société dans laquelle on serait descendu d'un métabolisme à 11 tonnes par personne à un métabolisme énergétique à 2 tonnes par personne ?» C'est divisé par 5, c'est profondément différent, c'est qualitativement différent. Est-ce qu'on sait se raconter cette histoire ? Moi, pas plus qu'un autre. Est-ce qu'on peut explorer, grâce à nos 3I ou nos 4C, d'autres formes d'histoire ?
À notre alphabet, on peut dire.
Est-ce qu'on peut d'ailleurs aller les chercher, y compris avec l'aide d'autres cultures ? Parce qu'une des difficultés intéressantes qu'on a, c'est que jusqu'ici, il y avait un monopole occidental du futur. D'ailleurs, cette relation au temps, cette idée du futur, cette idée du progrès, c'est une idée profondément occidentale. Le monopole occidental de la production d'idées considérées comme universelles, c'est terminé. Donc en plus, il va falloir qu'on aille le chercher avec d'autres cultures. Mais est-ce que toutes ces ressources-là peuvent nous aider petit à petit à construire nos visions à nous sur lesquelles on s'engueulera les uns les autres, mais dans cet endroit imaginaire qui s'appelle le futur ? C'est ça qu'on peut construire. Et là, je pense qu'on peut la retrouver.
Sur cette notion de futur, Étienne Klein, je vous donne la parole avant de la donner à Malek pour ne pas refaire la même chose que tout à l'heure. Sur cette notion de futur, quand on s'est vu au moment du premier confinement, juste après, vous disiez, en gros, on visait avant l'an 2000, pendant nos jeunesses. Depuis l'an 2000, on n'arrivait plus à trouver de cap. S'il y a eu un effet positif à cette pandémie, c'est qu'à un moment, on a recommencé à formuler le monde d'après. Alors qu'on n'avait plus cette idée d'un monde d'après. Aujourd'hui, on est encore de nouveau bousculé. Mais ce rapport au futur, vous, aujourd'hui, vous le voyez comment ?
Alors, en effet, disons dans les trois dernières décades du XXe siècle, ou décennies plutôt, l'an 2000 servait d'horizon projectif. Et en fait, c'est un peu comme quand on escalade une montagne. Quand on est dans la phase d'ascension, on est complètement tendu vers l'objectif, qui est le sommet. On atteint le sommet, on a une joie de quelques secondes, et après, il faut redescendre. Et la redescente fait mal aux genoux, elle est toujours vécue comme assez douloureuse, d'autant plus qu'elle nous éloigne de l'objectif qu'on s'était fixé. Et je pense que le passage de l'an 2000 a enclenché une pente descendante au cours de laquelle on a eu du mal à se donner un autre horizon projectif. On ne parle pas de 2100, de 3000, c'est trop loin. Et donc, on vit dans une sorte de présentisme. Et avant le Covid, il est vrai qu'on donnait beaucoup la parole aux collapsologues, aux gens qui prédisaient, sinon la fin du monde, du moins la fin d'un mode de vie avec des effondrements des richesses, du mode de vie, etc. Et pendant le premier confinement, si vous vous souvenez, alors qu'on était dans la catastrophe, on était dans l'urgence, beaucoup de personnes, des think tanks, se sont mis à réfléchir à ce qu'on appelait le monde de demain. Comme s'il fallait être pris par l'urgence pour se donner le temps de réfléchir au futur, qui auparavant était laissé en jachère intellectuelle, en lévitation. On était pris dans une sorte de présentisme effréné. Et la pensée du futur s'est développée de façon très intense pendant cette phase. Et puis ensuite, il y a eu une sorte d'enlisement. Et aujourd'hui, le monde de demain est à nouveau laissé en déshérence. Et je pense que pour les générations, c'est en effet anxiogène. Et la responsabilité d'une génération comme la mienne, plus ancienne, c'est d'essayer de faire comme vous le dites, c'est-à-dire de, non pas faire de la prédiction, mais donner aux jeunes générations une perspective qui leur permette de formuler des projets pour eux-mêmes et pour la société qui ait du sens pour eux. Mais je crois que le mouvement est en cours. Enfin, moi, mes étudiants, d'après ce qu'ils me disent, en tout cas, ils cherchent à trouver un travail qui ait du sens pour eux. Alors évidemment, c'est une notion très subjective, mais c'est une préoccupation nouvelle qui existait de façon beaucoup moins intense dans les générations d'avant.
Malek Boukherchi, de quelle façon on arrive à se projeter, à votre sens, dans le futur ? Qu'est-ce qui peut aider à le faire ?
Je crois beaucoup aux rêves, et je crois beaucoup aux espérances, et je crois beaucoup à l'imaginaire. Mais en tant que conteur, parce que je suis aussi conteur,
ah oui.
Alors c'est intéressant, nous les conteurs, on n'est pas dans la projection du futur. Nous, on essaye modestement peut-être de porter un regard neuf sur un monde vieux. Et ça, c'est différent. Porter un regard neuf sur un monde vieux.
Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que tout simplement, lorsqu'on est capable de compter, raconter, je crois que le récit, c'est ça, l'imaginaire, c'est ça, et tout le monde est capable de compter, raconter, c'est célébré dans l'homme, c'est célébré dans la femme, c'est célébré dans l'enfant, sa part éternelle, et reconnaître à travers le mystère qu'il habite l'authentique dimension de sa vocation, celle de faire face à l'adversité ou à toutes les adversités. Parce que si l'adversité est grande, on a toujours su trouver des solutions, l'humanité, pour faire face à l'adversité. Et c'est dans les épreuves qu'on fait ces preuves. Et ce qui est intéressant dans les histoires, dans les contes, dans les récits, dans les métarécits, on se souvient, on est souvent amnésique, on veut toujours se projeter vers le lointain, et on a tendance à oublier ce qui s'est passé jadis. Et nous, dans la tradition berbère, on dit souvent, on a un adage qui dit « Pire que l'avenir incertain, l'absence de passé. »
Des racines et des ailes.
Eh bien, il y a de ça. Effectivement, on dit, c'est vrai, c'est un adage berbère où on dit, nous, chez nous, en Kabylie, nous ne pouvons transmettre que deux choses à nos enfants, des racines et des ailes. Des racines, parce que nous sommes des êtres de mémoire, ancrés dans un rhizome, ancrés dans une trajectoire, ancrés dans une histoire. Il s'agit d'en être fier, quelle que soit l'histoire. La plupart de la jeunesse défavorisée, je le vois dans les quartiers plus ou moins compliqués, ils n'ont plus cette connexion à l'histoire avec leurs parents, parce que ça ne parle pas, parce que ça n'échange pas, parce que ça ne partage pas. Parce qu'il y a aussi cette loi du silence. Moi, j'ai grandi avec une génération de parents qui étaient des taiseux, où la parole ne circulait pas également. Nous, en tant qu'enfants, on n'avait pas le droit d'interviewer, de questionner nos parents pour dire « Pourquoi t'es venu ici ? Qu'est-ce qui t'a fait venir en France ? Qu'est-ce qui a poussé ces logiques d'immigration ?» Après, on les connaît, d'autres raisons, mais on aurait voulu entendre. Moi, j'aurais voulu entendre l'histoire de la part de papa, de la part de maman. Mais peu importe, après il y a cette fierté, on va aller chercher, on va aller investiguer. Et l'être de mémoire n'est rien sans l'être de promesse. On est tous des êtres de promesse. Et en ces temps de questionnement et de cacophonie identitaire, je crois qu'il est bon d'avoir en mémoire. Je vais vous raconter juste une petite histoire, très rapide, de la sagesse maori qui s'appelle l'arbre et la pirogue. Et pour moi, tout est dit. Et lorsqu'on est capable de se souvenir, on est capable de voyager. Et voyager, c'est raconter. Raconter, c'est savoir. Savoir, c'est transmettre. Parce que nous sommes des êtres de transmission, tout simplement. Et je crois que la perspective, c'est cette capacité à transmettre, à embarquer, à fédérer. Et sur ce dialogue permanent entre hier, aujourd'hui et demain, entre hier et demain, entre l'être de mémoire et l'être de promesse, les Maoris nous disent ceci. Nous sommes toujours partagés par le désir d'aventure, de quête. Et donc, on est toujours attiré par la pirogue. Parce que la pirogue, c'est quoi, nous disait Maori ? C'est l'aventure, c'est l'ailleurs, c'est l'inconnu, c'est le risque. Et constamment, on n'a qu'une envie, c'est d'aller voir ailleurs, parce qu'on pense qu'ailleurs, l'herbe est beaucoup plus verte, classique. Mais on a tendance à oublier qu'on est aussi des êtres reliés à un arbre. L'arbre, c'est l'enracinement, c'est le rhizome, c'est la sécurité, c'est le connu par rapport à l'inconnu, c'est forcément la tradition par rapport à la modernité. Et donc, on est constamment balancé, nous disent-ils, entre l'arbre et la pirogue. À un moment donné, c'est la pirogue qui nous attire. À un moment donné, c'est l'arbre. Jusqu'au jour où on comprend que c'est avec l'arbre que l'on fabrique la pirogue et pas l'inverse.
Petit temps de silence. Et je passe la balle à Fabrice Bonifay. Par rapport à tous ces explorateurs de l'imaginaire qu'on entend ici, et par rapport au travail que vous devez mener sur le terrain pour aider à transformer les modèles, la façon de penser, la façon de construire, de produire, par rapport à l'évolution des usages, par rapport à tout ça, quand vous entendez, ça produit quoi chez vous comme réaction ? Vous vous dites... que c'est un beau moment narratif, ou alors ça résonne sur du fer, à IRE.
Enfin, dans les entreprises, c'est le royaume du pragmatisme.
C'est pour ça que je vous pose la question.
Donc on est très loin de ces pensées philosophiques.
Qui peuvent être pragmatiques, c'est pour ça que je vous pose la question.
Mais pourtant, Dieu sait si on en a besoin, parce qu'on a besoin de créer ce futur désirable. Et donc il faut raconter des histoires qui donnent envie, si simplement l'écologie est perçue comme punitive, comme beaucoup s'attardent à le dire, ça ne va pas donner envie. Donc on a besoin d'ailleurs, pour la transformation, d'utiliser des artistes et des gens talentueux comme il y a ici autour de cette table, pour raconter des belles histoires, on en a vraiment besoin. Et d'ailleurs, je trouve ça intéressant qu'il y a de plus en plus de scénaristes qui s'appuient sur des dystopies positives ou des comédies. Hein. Tout le monde a vu Don't Look Up. Ça aide beaucoup à prendre conscience de faire ce genre de choses. Mais d'une façon plus pragmatique, hélas, on sait que le futur ne sera pas une continuité linéaire du passé. Hein. Ça, maintenant, on le sait, parce qu'on sait que le business, c'est des matières premières et l'énergie, je l'ai dit. Et il y en aura moins. Donc, finalement, ce qui va faire qu'on va se transformer, ce sont des crises successives. Hélas. Hélas, parce qu'on n'a pas cette capacité de projection. On n'a pas cette capacité de changer avant le drame. Donc, on anticipe très peu, en fait. Parce que, le bug humain l'explique, mais il y a d'autres auteurs qui sont revenus sur ce sujet. Mais cette capacité de projection, d'adaptation pour le futur, on ne sait pas le faire. On s'adapte quand il y a un problème. Et les entreprises innovent, en fait, quand il y a une contrainte. Alors la contrainte, elle peut arriver de partout. Hein. Ça peut être une contrainte réglementaire, une nouvelle régulation. Ah, bingo, il faut s'adapter. Ça peut être le concurrent qui a sorti un truc mieux que ce qu'on est en train de faire. Ah, il faut s'adapter. Il n'y a pas d'innovation sans contrainte. Et donc, les contraintes à venir, elles vont être physiques. Physiques. Il va y avoir moins d'énergie, moins de matières premières disponibles. Donc, il va falloir qu'on s'adapte. Et la bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que ceux qui vont être malheureux, c'est ceux qui vont pouvoir faire des comparaisons. C'est ceux qui vont se souvenir du monde d'avant par rapport au monde d'après. Mais ça ne dure pas très longtemps, ça dure une génération. Ce qu'on appelle le « shifting baseline ». C'est quoi le shifting baseline? C'est-à-dire qu'en fait, nos grands-parents pêchaient des gros poissons. Ils étaient contents de pêcher des gros poissons. Nos parents ont pêché des plus petits poissons parce qu'il n'y avait plus de gros poissons. C'est une métaphore, bien sûr. Et puis les enfants pêchent des plus petits poissons parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait des gros poissons dans le temps. Et on finit par s'adapter, en fait. On finit par oublier. Et peut-être, hélas, et je vais vous dire un truc affreux, que nos enfants, nos petits-enfants, ça sera normal dans 60 ans de passer juillet, août, sous terre, parce qu'au-dessus, ce sera invivable. Et ce sera normal. Et on va s'habituer à cette anormalité, mais de l'anormalité de ce moment-là. Et c'est ça qu'il faudrait pouvoir éviter, quand même. Parce que, hélas, on partage avec le rat et le cafard une capacité d'adaptation extraordinaire, de résilience. Mais ça finit quand même par jouer, quand même, gravement sur notre cerveau, cet inconfort. Donc si on veut rendre le futur désirable, eh bien cette déconsommation qui va s'imposer à nous, eh bien, il faut se dire finalement, et ça a été dit je pense plusieurs fois dans cette table ronde, ce qui rend heureux les gens, c'est des choses pas commerciales, comme disait Alain Souchon. Hein, c'est des câlins, c'est de manger bien, c'est des amis, c'est de socialiser avec les gens, c'est ça qui rend heureux. Et donc comme on va devoir déconsommer pour passer de 11 tonnes à 2 tonnes, il va falloir transférer l'ultramatériel consumériste en immatériel social. Et donc, c'est ça qui pourra peut-être nous faire accepter le fait qu'il va falloir vivre d'une façon plus sobre. C'est la seule solution. Et on a besoin des artistes pour nous raconter des belles histoires comme ça et nous donner l'envie d'aller vers la sobriété heureuse, comme disait Pierre Rabhi.
Daniel Kaplan, peut-être... Applaudissez. Daniel Kaplan, peut-être parce qu'on arrive à la fin de notre temps d'échange ensemble, mais par rapport à la salle qui se trouve en face de nous, sur ce travail de recherche que vous menez, sur cette idée de justement essayer de décloisonner les imaginaires, il y a des méthodes que vous mettez en place, il y a des travaux, des groupes de travail que vous construisez. Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez partager pour aider chacun, donner des petites graines, pour que chacun puisse, derrière, penser et trouver des moyens pour penser autrement.
Il n'y a pas de méthode miracle, mais...
Non, mais ça, j'ai compris de tout, mais bon, je pose...
Mais peut-être, on commence toujours par une chose. On demande aux personnes qui viennent et qui sont, par exemple, des personnes d'entreprise, donc pragmatiques... Et qui souvent d'ailleurs se glorifie, on l'a fait avec des politiques, hein, beaucoup de politiques actuellement se glorifient de dire moi je suis pragmatique, je ne fais pas d'idéologie, je n'ai pas d'imagination. Je me dis pourquoi tu fais de la politique? Mais bon, ça c'est en passant. Mais on leur demande de venir avec une référence artistique et fictionnelle personnelle qui leur parle du sujet dont on va parler. Le travail, la mobilité, l'entreprise, etc. Au début, j'en ai pas, mais en fait, ils en ont toujours. Alors, il faut accepter que, quand on dit une référence, c'est pas que de la grande culture, ils viennent avec ce qui leur parle. Et d'un coup, quand la conversation qui s'établit à partir de ça, à partir de la série, la BD, le bouquin, l'œuvre plastique, la pièce de théâtre, que les gens qui leur parlent du futur de l'entreprise, vous êtes en 5 minutes dans une conversation d'un groupe sur des perspectives, sur un mélange intrinsèquement humain de connaissances, expériences, valeurs, sensations, sentiments. Et les gens, et vous êtes dans une conversation. Donc commencez par ça. Commencez à aller vous dire, mais moi, c'est quoi les références qui me parlent quand je réfléchis à ces sujets-là? Et éventuellement, parlez-vous ensemble de ces choses-là. Peut-être la deuxième chose, à nouveau, j'insiste sans arrêt sur cette idée qui est, il ne faut pas qu'on demande aux artistes, et nous, qu'on demande aux artistes de venir nous raconter des histoires, il faut qu'on demande aux artistes de nous aider à en raconter.
C'est ce que je vous demande de faire. Voilà. Alors, vous n'êtes pas un artiste, mais il y a quand même quelque chose. Non, je ne suis pas un artiste.
Donc, de nous aider à en raconter. Et du coup, s'il y avait une chose qu'il fallait qu'on apprenne, et en tout cas, nous, on a appris que c'était ça qu'on devait faire dans nos ateliers, c'est de nous donner des contraintes narratives, d'apprendre des techniques, non pas de style. On ne devient pas tous un bon écrivain, mais on peut tous et toutes plus facilement apprendre comment se construit une histoire, comment on construit un personnage, comment on construit une situation, comment on commence à les faire interagir. Et être capable de commencer à construire une histoire, c'est être capable de commencer à se projeter, en fait. Et la meilleure idée à ce moment-là, c'est qu'on se projette soi dans cette histoire. Tu racontes un futur, tu fais quoi dans ce futur, toi? Et pas seulement d'ailleurs tu t'adaptes, il y a une question qui est l'adaptation, mais tu joues quel rôle dans le fait que ce futur advienne? Quand vous commencez, et c'est possible, des gens qui ont commencé par nous dire « j'ai pas d'imagination, je sais pas écrire », etc., sont tous et toutes capables de faire ça. Notamment quand ils commencent à se projeter eux-mêmes ou elles-mêmes dans ces futurs-là. Donc, voilà.
Ça produit quoi dans nos petites vies quotidiennes, ça? Outre le fait d'avoir réussi à pousser un petit curseur, qu'est-ce que ça a comme effet, si vous... comme battement d'aile du papillon, ça fait... Il se passe quoi?
Il y a une différence entre le futur me tombe sur la gueule, on verra bien ce qui se passe, et je me perçois comme étant capable d'agir sur le futur. Alors le futur, ce n'est pas d'agir sur je vais changer toute la société, c'est est-ce que je peux... C'est une capacité au sens vraiment pour moi Amartya Sen, c'est-à-dire est-ce que je peux concevoir de pouvoir faire changer des choses dans ma situation et dans mon environnement, et est-ce que je peux commencer à me mettre sur le chemin dans lequel j'essaye de faire que ça marche? Je ne peux pas savoir si ça va réussir, mais si déjà j'ai cette capacité de me projeter en disant je pense que ceci pourrait être, et j'imagine les deux premiers pas pour faire en sorte que ceci soit, je pense que fondamentalement votre situation dans la société et votre perception des temps difficiles à venir change considérablement par rapport à l'idée on verra bien, de toute façon ça va me tomber dessus, de toute façon je suis trop petit et de toute façon j'ai pas d'imagination. Et en fait c'est pas vrai, vous avez de l'imagination parce qu'on fonctionne tout le temps comme ça, et l'anthropologue le dirait mieux que moi.
Va venir Étienne Klein pour revenir à finalement le sens même de cette table et l'enjeu même de Génération Matrioshka, de ce qu'on tente de transmettre aux générations futures sur comment les aider et nous aider chacun à écrire une histoire autrement. Vous, de votre lecture, qu'est-ce que vous donneriez comme conclusion à ce temps d'échange? De ce que vous portez, après tout,
je citerai Bergson qui disait que l'idée de futur est plus féconde que le futur lui-même. Ça rejoint un peu ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il faut se donner l'idée du futur. La question de savoir si le futur existe ou pas est une question ouverte. Hein. Quand vous tracez l'axe du temps, vous avez l'instant présent qui est l'instant T. Est-ce que les instants qui suivent, qui sont ceux du futur, existent déjà quelque part ailleurs que là où vous êtes, ou est-ce qu'ils n'existent pas du tout? Ça, c'est une question dont on pourrait débattre longtemps. Et moi, je pense que notre responsabilité, c'est de trouver un moyen de concilier l'idée que le futur n'existe pas avec l'idée qu'il est déterminé. ce qu'on appelle l'univers Bloch en théorie de la relativité, avec l'idée que le futur est déjà complètement écrit. Ça, c'est la première façon de la comprendre, et qui fait concurrence à l'idée que le futur, à l'heure où on parle, c'est encore le néant, et deviendra présent quand on sera arrivé jusqu'à lui. C'est de combiner les deux, et de dire, premièrement, qu'il y aura un futur, et donc ne pas céder aux thèses collapsologiques qui nous promettent une fin du monde imminente. Il y aura un futur, premièrement, et de prendre du présentisme l'idée que le futur n'est pas complètement déterminé. C'est-à-dire qu'il y a place pour les projets, pour le désir, pour l'envie, pour l'imagination, en évitant quand même le délire. Il ne s'agit pas de penser l'utopie. Il s'agit quand même de penser un futur vers lequel on pense pouvoir aller. C'est-à-dire, on essaie de le penser à partir de ce qu'on désire, mais aussi à partir de ce qu'on sait. Et ce que vous avez dit tout à l'heure m'a plu, parce que je trouve qu'on est capable de développer toutes sortes de stratagèmes intellectuels pour ne pas croire ce que nous savons. Il y a des choses qu'on sait, mais on n'y croit pas. Prenez les climatologues. Moi, je travaille au CEA. Il y a des climatologues qui travaillent dans le bâtiment à côté du mien. J'en connais beaucoup. Et en gros, ils disent la même chose depuis 30 ans. Ils précisent leur discours. Ils améliorent leurs analyses, leurs calculs, leurs simulations. Mais le gros du message est le même depuis 40 ans. Et regardez le temps qu'il a fallu pour les prendre au sérieux et abandonner les arguments de ceux qui laissaient entendre qu'il y avait des doutes, que c'était pas certain, que c'était des propos alimentés par je ne sais quel lobby, etc. Là, aujourd'hui, il semblerait qu'on ait compris la leçon, mais quel temps il a fallu, quoi.
Malek Boukherchi, pour terminer tout ce qui vient d'être dit, on entendait au travers de ce qu'il disait Daniel Kaplan l'idée du chemin d'une certaine façon, et au travers de ce que dit Étienne, c'est aussi de ça dont il est question. Quand oui, le futur existe, mais en même temps on peut agir sur son devenir, on est en chemin. Cette idée du chemin, et on va terminer sur votre vision à vous de marcheur en chemin, comment vous abordez pas à pas le cheminement vers cet imaginaire, vers cet ailleurs, vers ce qu'on se fixe comme cap, en tous les cas?
Déjà, juste peut-être revenir modestement sur les notions de temporalité. Et c'est intéressant parce que nous, les ultra-marathoniens, on raisonne aussi sur le plan de la temporalité, sur l'espace et le temps. Alors, il y a une grande différence entre les marathoniens, les ultra-trailers et les ultra-marathoniens d'extrême. Les marathoniens et les ultra-trailers, ils sont dans le chronomètre. Ils courent toujours derrière un temps. Ils sont souvent obnubilés par le temps et ils traversent le temps. Et la première question qu'on va leur poser quand ils font une course, combien ? On ne leur demande pas, par l'état émotionnel, raconte-moi l'histoire, par où tu es passé. On va juste leur demander combien. Donc, ils sont dans un temps déterminé, ils sont dans un temps régulier, ils sont dans la prévision, si je veux revenir avec les propos qui ont été tenus par Daniel. Parce que quand on est bien entraîné avec un coach, on va vous entraîner de manière précise et vous êtes capable de faire ce temps sur marathon à la seconde près. À l'inverse, nous, les ultra-marathoniens, on n'est pas dans la prévision, on est dans la prévoyance. On est dans le temps indéterminé. On est dans un temps stochastique, on est dans un temps irrégulier où rien ne se passe comme prévu. On traverse l'espace. Et que peut-être aujourd'hui, l'enjeu, ce n'est pas de raisonner en termes de temps, c'est de raisonner en termes d'espace. Et l'espace, c'est le chemin. Ce qui compte, ce n'est pas forcément le point A ou le point B. Ce qui compte, et c'est ce qu'on dit, nous, les compteurs, entre le néant des origines et l'abîme de la destination, il y a un espace qui s'appelle « vivre maintenant ». Et on a tendance à oublier le vivre maintenant à force de faire trop de projections, à force d'aller trop vers l'ailleurs, alors qu'il y a un temps qui est là maintenant. Maintenant, comment on fait face à ce maintenant? Peut-être juste une histoire. Moi, je crois beaucoup à la force des histoires et je raisonne en histoire parce qu'elles ont le mérite de traduire l'essentiel inaperçu, de traduire le réel ou l'invisible. Et comme quoi les histoires, encore une fois, nous structurent. Il suffit juste de savoir aller les piocher, de les prendre, de les comprendre, pour pouvoir modeler l'argile des mots dans ses pleins et déliés et faire advenir le juste, le beau et le digne. Et on recherche tous de la justesse, de la beauté et de la dignité. Et que peut-être notre jeunesse est en quête de ces trois éléments, de ces ingrédients structurels. Et que peut-être pour faire face au monde indéterminé, faire face à ces incertitudes, faire face à ces questionnements, moi je garde en mémoire, il y a une très belle histoire de la tradition hein, du 14e, 15e siècle. On est à l'époque de Miyamoto Mizushi, qui est le plus grand samouraï qui existait en tout cas au Japon, 1584-1645. C'est la période de D'Artagnan, si vous voulez. Il a perdu aucun de ses combats et il a eu plein de disciples. Des gens qui ont suivi la voie du samouraï, cette capacité, cette voie droite pour pouvoir faire face. Et l'histoire nous dit qu'un de ses disciples, bien des années après, deux générations après, Lu Chen, est devenu le plus grand samouraï à l'époque du Japon. Fils de samouraï, arrière-petit-fils de samouraï, et il a gagné tous ses combats. Et il est fier, et il est heureux. Et hélas, il commence à perdre l'humour, il commence à perdre la légèreté, il commence à perdre la simplicité. L'orgueil est en train de le tuer progressivement parce qu'il se place au-dessus des gens. Et sa mère est déçue du comportement de son fils. Elle ne comprend pas. En tant que samouraï, il est là pour respecter la tradition et la modernité. Et comme il est devenu pratiquement invincible, il se place au-dessus des gens. Alors sa mère a une astuce. Elle va voir son fils, elle est au crépuscule de sa vie, et elle lui dit, mon fils, je vais bientôt partir. Il faudra aller honorer l'ermite de la montagne. Va le voir et va faire bien sûr des libations, va faire des dons pour que mon âme puisse traverser l'ailleurs de manière la plus sereine qui soit. Son fils, le plus grand samouraï du Japon, lui dit, mais tu veux que j'aille voir ce pauvre clochard là-bas, là-haut? Moi, le plus grand samouraï, c'est pour ma mère, c'est pour moi, dit la mère. Fais-le pour moi, c'est pas pour toi. Alors il y va, à regret, en se disant, bon, je vais faire les libations, et une fois que c'est fait, je vais retrouver mon dojo, et je vais retrouver, bien sûr, ma place dans la société. Et quand il rencontre cet ermite, cet anachorète de la montagne, eh bien, il est charmé par la force du silence, il est charmé par sa présence silencieuse agissante, il est charmé par son regard silencieux, par son rire jubilatoire, par sa parole puissante, et il reste. 2 jours, 5 jours, 7 jours. Et à la fin, l'ermite lui dit, maintenant tu as compris, si tu veux retrouver la voie droite, va gravir la montagne rouge et là-haut te sera révélé les moyens pour faire face à un monde compliqué. Alors, il décide d'aller à la montagne rouge et il traverse la forêt épaisse et il laisse sa force inégalable. Il franchit le fleuve impétueux et il laisse son énergie inépuisable. Et il gravit la montagne rouge et il laisse sa rudesse ineffable. Là-haut, sur la montagne, balayée par les vents, il n'y a rien. Et il ne comprend pas. Il y a juste des pierres balayées par le vent. Et il se dit, mais pourquoi je suis venu là? Toutes ces épreuves pour ça. Donc il traverse le monticule, cette montagne là-haut. Et à un moment donné, il voit une fleur. Une fleur qui pousse au milieu du néant. Cette force de vie qui nargue la mort. Une fleur. Et donc, il s'approche de la fleur et il se rappelle des propos de l'anachorète, de l'ermite de la montagne qui lui disait « C'est sans nul doute le monde des fleurs qui manifeste le mieux la beauté ici-bas sur terre. Terriblement précaire, infiniment désirable, monde du souffle passant, le bruissement et la force toujours présente. » Alors, il regarde la fleur et en regardant la fleur, lorsqu'il s'agenouille, il comprend. De par sa tige haute, sa vulnérabilité, de par ses pétales douces, la douceur, et de par sa danse aérienne, la légèreté. Fort de ces trois armes, vulnérabilité, légèreté, douceur, il est prêt à faire face au monde qui vient.
Merci. Merci infiniment Malek Boukherchi, merci à vous Fabrice Bonifay, merci Daniel Kaplan, merci beaucoup Étienne Klein, merci d'avoir ouvert nos imaginaires décloisonnés. Dans un instant, il y a une table chantée. L'avenir, c'est plus marrant en chantant, c'est animé par Sophie Delassin, il y a la grande Sophie, il y a Clou, il y a Maud Lubeck qui vont venir nous permettre de chanter la transmission aussi. Et demain, on se retrouvera à 14h pour la valeur d'un autre monde. On parlera numérique, on parlera métavers. Il y aura aussi tout un temps d'échange sur la valeur de la planète, combien ça coûte, la valeur du vivant. Alors j'espère que vous allez nous accompagner dans tout ce beau voyage, sans oublier tous les ateliers. Merci à vous et puis à tout à l'heure. Au plaisir.
Au revoir.
Au revoir. Matrioshka.